Vous écoutez France Culture, tout de suite, le journal.
Le journal, présenté par Caroline Félix.
Bonjour à tous. La canicule régresse lentement en France, mais les politiques doivent garder en tête ces chaleurs tout au long de l'année, alerte une spécialiste. Elle craint des économies sur le dos de la rénovation énergétique. La Bolivie pourrait changer de bord politique. Ces jours d'élection aujourd'hui et deux candidats de droite sont favoris après 20 années de gauche au pouvoir. Vladimir Poutine fait passer Donald Trump pour un imbécile. Le jugement sévère de la presse américaine au lendemain du sommet en Alaska. Les détails à suivre. Plusieurs records absolus de chaleur battus hier dans l'Hexagone. 40,7 à Perpignan, 40,3 à Montpellier, 39,5 à Aigues-Mortes. 25 départements sont toujours en vigilance orange dans le sud et le sud-ouest. Mais la canicule est en train de passer. Ces vagues de chaleur, on en parle beaucoup quand on les traverse. Mais c'est un sujet qu'on oublie vite. Pointe Maude Lelièvre, elle est docteur en droit de l'environnement, conseillère de Paris. Or pour elle, il faut que les pouvoirs publics l'aient en tête tout au long de l'année.
Le risque dans le contexte budgétaire, c'est qu'on se dise que finalement des adaptations peuvent attendre. Or, ça coûte pas si cher. Ça coûte cher de mal adapter, mais ça ne coûte pas si cher de rénover. Il va falloir investir. Un appartement, c'est entre 20 000 et 30 000 euros pour avoir une rénovation qui apporte du confort. Une journée en réanimation, c'est 2 500 euros. Donc, il faut vraiment mettre ça en perspective. Une cour d'école végétalisée, c'est 250 000 euros. Donc, c'est des investissements conséquents dans la période actuelle, mais j'espère que l'idée qu'il va falloir pouvoir garder des lieux habitables va rester dans le débat public. En tout cas, les habitants, moi, que je croise, s'inquiètent dans une ville comme Paris de savoir si leur logement va être encore habitable avec la chaleur, hésitent à investir pour acheter pour les plus jeunes qui se disent bah, finalement, est-ce que Paris, c'est un lieu dans lequel on va pouvoir vivre dans 20 ans ? Et puis réfléchissent également à installer des volets, à adapter leur logement de façon individuelle. Donc, au plan individuel, je pense qu'on a changé de mentalité, de perspective. Après, il faut le traduire en politique publique. Ça, c'est absolument essentiel.
Et ces journées de chaleur extrême sont vouées à se multiplier avec le réchauffement climatique, selon le dernier rapport du GIEC. Le dérèglement climatique qui se fait sentir au Pakistan, le pays frappé par les violentes moussons et les inondations. Les secours tentent encore de retrouver des survivants. 350 personnes sont mortes depuis jeudi dans la région montagneuse du nord du pays. Mais les glissements de terrain empêchent les ambulances d'accéder à la zone. La mousson est inhabituellement intense cette année d'après les autorités, et les pluies devraient encore s'accentuer ces deux prochaines semaines. Et puis en Chine, 8 personnes sont mortes et 4 sont portées disparues, victimes d'inondations soudaines dans la région de la Mongolie intérieure. C'est le début de la saison des ouragans dans l'Atlantique Nord. L'ouragan Erin vient de passer en catégorie 5, la catégorie maximale avec des vents à 255 km/h. Il se dirige sur les îles Caraïbes, les îles Vierges britanniques et Porto Rico. Il y a des risques d'inondations. La tempête va passer aujourd'hui aussi à l'est de Saint-Barthélemy. L'île française est sous surveillance. Les Boliviens se rendent aux urnes aujourd'hui. Ils doivent élire leur président. Les deux candidats de droite sont en tête des sondages. Il faut donc s'attendre à une alternance après 20 ans de socialisme. Depuis l'élection d'Evo Morales, c'était en 2006. Le président actuel sortant renonce à se présenter. Il est tenu responsable de l'inflation galopante, 25% sur un an. Correspondance de Nils Sabin à La Paz.
La crise économique que subit la Bolivie a été au cœur de la campagne électorale pour l'élection présidentielle. Depuis le début de l'année, les prix sont en constante augmentation et il est de plus en plus difficile de se fournir à des prix corrects. C'est ce qu'explique Sonia, vendeuse de jus et de salade de fruits dans un marché de La Paz.
Les fruits sont plus chers, le lait et la glace aussi, tout a augmenté. C'est dur d'aller faire ses courses car le porte-monnaie ne suit plus.
Pour une grande partie de la population, le gouvernement est largement responsable de cette crise économiques et beaucoup, comme Sonia, font part de leur volonté de changement après 20 ans de gouvernement de gauche.
Il faut donner une opportunité aux nouveaux candidats. Peut-être qu'ils feront des erreurs au début, mais il faut leur donner cette chance.
Pour la droite, c'est une opportunité unique. Les deux candidats en tête proposent des mesures d'austérité face à la crise, réduction de la taille de l'État et accord avec le Fonds monétaire international. Pour Mauricio Tambaré, éleveur dans l'Est de la Bolivie, les candidats doivent s'inspirer d'autres présidents conservateurs du continent.
On aime bien bien ce qu'a fait Javier Milei en Argentine, ce qu'a fait Bukele au Salvador. On ne demande pas à ce que ce soit un copier-coller, mais que ce soit similaire à ce que fait Milei.
Un voire deux candidats de droite pourraient se qualifier au second tour, qui aura lieu au mois d'octobre.
Et les Boliviens vont aussi voter aujourd'hui pour leurs députés et pour leurs sénateurs. Les États-Unis suspendent les visas médicaux pour les Gazaouis. La diplomatie souhaite, je cite, effectuer un examen complet et minutieux du processus. Cette décision fait suite à la publication sur X d'une influenceuse d'extrême droite. Elle a affirmé que les Palestiniens pro-Hamas étaient venus aux États-Unis grâce à ces visas. Donald Trump s'est laissé convaincre par Vladimir Poutine. C'est le constat de la presse américaine au lendemain du sommet en Alaska sur l'Ukraine. Elle souligne la déférence inhabituelle du président américain face à son homologue russe. En reprenant la solution d'un accord de paix plutôt qu'un cessez-le-feu, il valide la stratégie du dirigeant russe et lui permet de gagner du temps. Revue de presse avec Sandrine Etoa-Andeg, notre correspondante à Washington.
Parade militaire, tour dans sa limousine, Trump a déroulé le tapis rouge mais est rentré à Washington les mains vides, résume le Wall Street Journal. Selon le quotidien économique, le président russe a été traité d'égal à égal sur le sol américain, a réussi à écarter de potentielles sanctions américaines et n'a annoncé aucune concession sur le plan militaire. Le Washington Post de s'interroger sur l'incompétence ou l'ignorance d'un Donald Trump, homme d'affaires qui n'aime rien tant que de conclure de bons marchés et applique cela en politique étrangère. Une de ses anciennes conseillères citée estime que les deux dirigeants ne jouaient pas dans la même cour. Trump ne maîtrise pas son sujet, contrairement à Poutine. Le Russe est reparti en vainqueur et a réussi à convaincre le président américain que la paix n'est possible qu'à condition de supprimer ce qu'il appelle les raisons profondes du conflit, souligne le journal, soit un certain nombre d'exigences qui, en substance, reviennent à la capitulation de l'Ukraine. Poutine a une nouvelle fois réussi à faire passer un président américain pour un imbécile, juge le Washington Post. Quel triste spectacle, écrit le New York Times, qui estime que la séquence en Alaska a fait donner carte blanche à la Russie pour continuer à faire la guerre à son voisin indéfiniment.
Sandrine Etoa-Andeg, correspondante à Washington. On passe à la météo. 25 départements en vigilance orange canicule dans le sud et l'ouest de l'Hexagone. Vigilance orange levée pour les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bretagne et de Corse.